Bienvenue dans Parlons Ferme. Aujourd'hui, dans Parlons Ferme, on va faire un petit débat, un petit échange plus complexe que les autres Parlons Ferme que vous avez pu écouter. On arrive au 23e épisode, je pense, et en fait, on a reçu pas mal de personnalités. Puis là, aujourd'hui, on reçoit plusieurs personnalités. Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon, qui est avec nous aujourd'hui. Frédéric Poulin, producteur laitier. Et Yann Turmine, qui est agronome et chroniqueur, que vous lisez régulièrement dans La Vie Agricole. Aujourd'hui, le sujet, c'est la gestion de l'œuf. On va essayer de savoir si la gestion de l'œuf, c'est l'outil du passé ou l'outil de l'avenir. Michel Saint-Pierre, vous avez écrit avec Guy de Bailleul et Suzanne Dion un livre récemment qui s'appelle « Notre agriculture à la dérive », édition Léméac. Et vous parlez justement de la gestion de l'œuf dans ce livre. En quelques mots, c'est quoi la gestion de l'œuf et comment ça marche?
C'est un grand défi de parler de la gestion de l'œuf en quelques mots. Mais c'est une politique d'abord nationale. Quand on parle de gestion de l'œuf, souvent on parle Québec, gestion de l'œuf. Non, c'est national. Et ça couvre toute la production laitière, œufs et volailles, essentiellement, c'est ça. Ça date des années 70, après qu'il y a eu quelques années de très grande turbulence, les producteurs de lait, particulièrement eux, se plaignaient justement de l'instabilité des marchés. Et on a établi à ce moment-là, bref, une sorte de programme dans lequel on contrôlerait l'offre. C'est ça, comme ça, quand on dit gestion de l'offre, on contrôlerait l'offre pour avoir un prix qui, normalement, couvrait les coûts de production. Donc, mais ça exigeait qu'on ferme la frontière également, qu'on devienne un marché intérieur. Et bon, l'histoire démontre que ça a changé. Le mode de soutien ou de blocage a changé avec le temps. On est passé du GATT avec un article qui le permettait. Et aujourd'hui, c'est des tarifs. Alors, justement, c'était à la mode, les tarifs actuellement, là. Les tarifs qui couvrent production, en fait, l'ensemble des productions, là, varient entre 250 et 300 %. Donc, c'est ça qui est la barrière.
Mais la barrière est de 300 % environ. Vous dites les tarifs, c'est effectivement d'actualité, puisque Donald Trump vient de les ramener dans le discours politique entre le Canada et les États-Unis. Au 20e siècle, on a vu plusieurs pays, que ce soit l'Australie, que ce soit la France, se débarrasser du système de gestion de l'œuf. Pourquoi le Canada a encore son système? Et qu'est-ce qui fait que le Québec a besoin de ce système pour entretenir, en fait, sa production laitière?
Bien, je dirais que la différence est assez grande entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, quand on les donne un exemple, et le Québec, parce que ce sont des marchés déjà fermés de par leur statut d'île. Donc, ils n'étaient pas dans un milieu pour lequel la concurrence était immédiate. Alors que dans notre cas, nous, la concurrence est juste au sud de la frontière, et elle est importante, donc... C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on a continué d'avoir cette barrière-là de façon à éviter qu'on soit simplement noyé dans un univers pour lequel les États-Unis et nous sont bien pareils.
Alors, on sait que la gestion de l'œuf, elle a été souvent questionnée. La gestion de l'œuf a souvent été questionnée. Puis là, je vais m'adresser à Frédéric Poulin comme producteur laitier et à Yann après comme agronome. Qu'est-ce qui fait, en fait, que dans d'autres pays, finalement, on a fait tomber la gestion de l'œuf, ici, on l'a gardée? En quoi ça c'est utile pour un producteur laitier de l'avoir? Et qu'est-ce que dans la gestion de l'œuf pourrait améliorer pour justement ne pas la perdre complètement?
Bien, c'est sûr que c'est utile parce que ça stabilise le revenu à 90 % du producteur, là. On a une idée de ce qu'on peut aller chercher par année, après ça, il nous reste à contrôler nos dépenses. Par contre, moi, je suis une ferme de première génération. Je n'ai pas hérité de quota, j'ai été obligé de l'acheter au départ. Je peux vous dire que le financement du premier quota, qui se finance à 50 % par lui-même, est extrêmement difficile et implique souvent beaucoup d'argent de membres qui ne sont pas directement impliqués dans la ferme pour être capable d'avoir les garanties financières pour être capable d'acheter. Donc, c'est sûr que l'avantage que ça a, c'est que ça sécurise le revenu. Ça nous empêche peut-être d'aller sur certains marchés. Ça dépend de la situation dans laquelle on est quand on est sur une ferme. Mais par contre, ça complique beaucoup le départ des entreprises laitières.
Alors, moi, j'ai lu, Yann, récemment dans la presse, Dominique Lamontagne, qui est un des parrains de l'Institut Jean Garon, d'ailleurs, qui a écrit le livre « La ferme impossible ». Puis lui, il était plutôt critique sur la gestion de l'œuf en ce moment, en disant que finalement, s'il n'y avait plus de gestion de l'œuf, ce serait peut-être plus pratique pour des petits producteurs, pour des producteurs qui veulent faire des laits de spécificité, des produits de niche, comme on dit. Est-ce que la gestion de l'œuf, c'est aussi un blocage pour l'innovation?
Non, je pense pas. Si on regarde ce qui se fait au Canada en matière de lait... on n'est pas à la traîne de ce qui se fait ailleurs dans le monde. On est quand même dans un des grands, en termes technologiques, un des grands pays. Est-ce qu'on est le meilleur? Non, mais on est dans le peloton de tête. L'autre chose que je voudrais préciser, quand tu dis, Yannick, qu'il y a des pays qui ont abandonné la gestion de l'offre, c'est plus ou moins vrai. Là. On va prendre un pays comme la France, qui est souvent cité. Oui, la France a abandonné un système de gestion de l'offre pour le remplacer par un autre système de gestion de l'offre qui est plus privé. Ça veut dire qu'il y a des contrats, que les lettrés donnent des contrats. Mais la barrière aux frontières en Europe, les barrières tarifaires ont été remplacées par des barrières non tarifaires. Au bout de la ligne, leur système est protégé de la même façon que nous autres. Sauf par des barrières, ce qu'on appelle non tarifaires, par toutes sortes de règles qui font en sorte qu'il n'y a pas de l'étranger qui rentre en France. Et les quotas laitiers en France ont été remplacés par des contrats que les laiteries donnent et souvent sous couvert de toutes sortes de réglementations, de lois. On a changé un système par un autre système. Et il y a très peu de pays dans le secteur laitier qui n'ont pas des systèmes de gestion de l'offre. Maintenant, quand on prend des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, c'est des cas très particuliers où c'est qu'ils ont des volontés très affichés, OK, d'exporter leurs produits. C'est des pays d'exportation. Et encore là, un producteur laitier australien, la gestion de l'offre d'exportation n'est pas faite au niveau du producteur, mais beaucoup plus au niveau des transformateurs, d'où des grands on voit dans ces pays-là des grands conglomérats qui contrôlent l'exportation, qui appliquent une façon à leur façon, un système même de gestion de l'exportation. Là.
Alors justement, Yann parle de la France avec son système de gestion de l'offre privée, parce qu'effectivement, Michel, tu l'as constaté aussi, quand il y a eu la mission de l'Institut Jean Garon en 2022, la visite des fermes, la visite de la coopérative d'Isigny, on a compris en fait qu'il y avait ce système, mais en fait on a compris aussi qu'ils fabriquaient des laits particuliers, parce qu'on voyait qu'à la coopérative d'Isigny, qui est une très grosse coopérative du type d'agropur, on est capable de faire du lait industriel, mais aussi du lait avec des fromages qui viennent aux alentours, à 50 km, avec des producteurs dont on sait, du lait dont on sait l'origine du producteur. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu se faire dans le cadre de la gestion de l'œuf ici au Canada? On ne le fait pas, puisqu'on mélange tous les laits.
Ça aurait pu se faire, oui. Mais là-bas, c'est devenu la façon de faire. Les usines, les producteurs sont attachés, entre guillemets, parce que c'est des contrats, comme Yann disait, ces contrats-là, on peut aussi signer avec un autre. Mais normalement, on attache dans le sens un producteur avec une usine qui fabrique un produit spécifique, particulier. Parfois, c'est du lait. C'est du lait blanc, ordinaire, comme on a partout. Mais ça peut être aussi des laits qui ont des spécificités de race, qui ont des spécificités, par exemple, de biologique. Ça peut être... mais c'est souvent, bien sûr, en France, des fromages. Il y a des très grandes fromageries qui font...
Comme la gestion de l'œuf est un contrat social, il me semble que tu as déjà expliqué ça dans plusieurs entrevues, contrat social aussi avec le consommateur. Est-ce que, justement, la gestion de l'œuf doit faire cet effort de faire des laits particuliers pour le consommateur du Canada?
Ouais, ça, c'est un gros débat. C'est un débat que, malheureusement, je pense qu'il n'est pas assez suffisamment mis sur la table. Effectivement, le producteur québécois, les transformateurs, parce que la gestion de l'œuf ne concerne pas que les producteurs, concerne aussi les transformateurs. C'est un contrat à trois, et le consommateur est la troisième partie de ce contrat-là de la gestion de l'offre. Et souvent, je trouve qu'on a un peu trop souvent oublié, on focus un peu trop sur le producteur, à tort et à raison, quand il y a deux autres participants à la gestion de l'offre. C'est sûr que tout ça, là, moi, je pense que, puis Frédéric l'a relevé tantôt, il y a des problématiques importantes, notamment au niveau des relèves, l'achat de... c'est très, très difficile, voire impossible. Là, je pense que Frédéric confirme, c'est l'exception à la règle. Des transferts non apparentés, c'est pratiquement impossible. Là. Frédéric, c'est un exemple assez rare.
Oui, parce qu'il faut rappeler que monter une production laitière, puis c'est ça, Frédéric, tu peux peut-être nous l'expliquer, c'est oui, avoir des terres, c'est avoir des troupeaux, mais c'est avoir le droit de produire. On parle toujours au Québec de 24 000 $ la vache, le quota, le coût.
C'est du kilo de matière grasse produit. Mais c'est ainsi, les vaches font à peu près entre 1,2 et 1,4 kg de gras par vache. Fait que ça prend plus, normalement, dans une production qui est quand même, qui se débrouille bien, ça prend plus qu'un kilo de quota par vache en lait à l'année. Là.
Ce qui veut dire qu'un troupeau d'une centaine de vaches représente quelle valeur
on
de quota?
On peut penser à aller chercher entre 120 et 140 kilos de quota là, pour ce troupeau-là. Mais en même temps, les PLQ ont parti certains programmes pour permettre de démarrer, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir le financement de base. Moi, je sais que dans mon cas, c'est mes beaux-parents qui ont mis leur maison en garantie pour qu'on soit capable d'acheter le premier 20 kilos. Là. Puis 20 kilos, là, excusez l'expression, là, mais on va pas loin avec ça. Là. C'est ça. Puis le reste, après, ben, c'est croiser les doigts. Il y a quelqu'un dans le couple qui travaille à l'extérieur. Des fois, les deux travaillent à l'extérieur pour réussir à y arriver. Et jusqu'à ce qu'il arrive à un moment donné.
C'est pas normal. Tu sais, je veux dire, le système aurait dû permettre, et le système aurait pu permettre, là, justement, des transferts de quotas apparentés ou non apparentés ou de façon beaucoup plus simple, parce que le système aurait pu le permettre. Comme le système aussi, parce que le prix est assez important, devrait permettre là, de tirer la qualité du lait. Les consommateurs canadiens devraient avoir accès, les transformateurs, avoir accès à des produits laitiers de très, 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 très grande qualité. Aujourd'hui, on a une qualité, puis qu'on se le dise, là, qui est pas mauvaise, là, mais qui n'est pas meilleure que ce qu'il fait ailleurs.
Mais justement, comme on dit que le lait, bon, mettons que le lait est bon, mais est-ce qu'il est tellement meilleur que le lait américain? Pas sûr. Donc, en fait, le danger, puis j'aimerais ça savoir, toi, en tant qu'agriculteur, en tant que producteur laitier, Frédéric, comment tu vois ça? Parce que dans le monde politique dans lequel on vit, la gestion de l'AF a été remise sur la table. On sait que Trump en avait parlé en 2017. On sait que c'est revenu dans les discours récemment. Tout le discours tarifaire, on ne sait pas trop si c'est justement pour rejouer la carte de la gestion de l'AF. Est-ce qu'il y a un réel danger pour vous? Puis finalement, est-ce que le danger, c'est justement comme il n'y a pas de lait particulier au Québec, au-delà du fait qu'il y a une vache bleue dessus, demain matin, si les Américains disent, bah, écoutez, nous, on ne veut plus de gestion de l'AF, on va nous envoyer du lait. Le consommateur, il va dire, le lait américain ou le lait d'ici, c'est du lait.
Ben, la seule vraie certitude qu'on a présentement, c'est que ça va faire partie de la prochaine négociation de l'ALENA. Ça, c'est certain. Ensuite de ça, comment ça va jouer, ça dépend des groupes d'intérêt, ceux-là qui vont peser le plus, ceux que les politiciens vont considérer qui ont le plus à gagner en protégeant certains groupes plutôt que d'autres. Et si jamais la production laitière en venait à avoir à se séparer de ses quotas ou à modifier de façon importante la façon que ça marchait, c'est toujours au niveau de la transition que l'atelier va se jouer.
Oui, puis justement, tu as parlé tout à l'heure d'une problématique financière que tu as connue quand tu as démarré, puis que je pense que toutes les personnes qui sont non apparentées vont connaître obligatoirement s'ils veulent partir une production laitière. Ça coûte cher à cause du quota. En termes de transition, tout à l'heure, on parlait de la France qui a, oui, recréé sa gestion de l'œuf privé, mais quand ils ont décidé qu'ils mettaient la fin du système du quota, ils l'ont annoncé 12 ans à l'avance. Donc, il y avait comme une préparation pour les producteurs laitiers. Au Canada, il n'y a pas de préparation. Actuellement, on est comme sous le couperet de Trump qui va décider en quelques mois quasiment si on en sort ou pas.
En France, ils ont abandonné le système de quota, ou ils l'ont remplacé. Mais il y avait un contrôle aux frontières. Il n'y a pas plus de lait qui rentrait de l'extérieur. Beaucoup. C'était très difficile de faire rentrer des produits laitiers de l'extérieur en France. Alors, il y avait une certaine protection. Si demain matin, il n'y a plus de gestion de l'offre, mais il continue à avoir un contrôle aux frontières, ben, ça ne change pas grand-chose. Mais là, le problème, c'est que les Américains veulent lever le contrôle aux frontières, ce qui va permettre l'entrée de lait. Là.
Mais Michel, sur la financiarisation, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que voilà. Moi, j'ai entendu Frédéric nous dire que ça coûte cher. Puis en fait, on sait aussi que depuis plusieurs années, les banques ont financé les producteurs à même la valeur des quotas. Est-ce que ça, c'est un danger? Parce que la transition, il faudra qu'elle se fasse, mais il va falloir que quelqu'un la paye, la transition.
Moi, je dirais que s'il y a un côté sombre à la gestion de l'offre, ça a été la financiarisation, le fait en sorte qu'on est parti avec le quota au départ, donné, attribué en fonction de ce qu'on observait sur les fermes. C'est vrai en volaille également. Hein. Le nombre de pieds carrés, le nombre de poules produites, etc. C'était ça. C'est votre quota. Et ce quota-là, le lendemain matin, quelqu'un a dit, je te l'achète, mais je te paye 5 $. Finalement, ça a commencé très, très tranquillement. J'étais dans le milieu en 70. Ça vous donne une idée de bon âge, là. Alors, dans les années 70, j'ai vu l'implantation des quotas. J'étais à la Banque de développement ces années-là, et j'avais des clients qui étaient des producteurs, des grandes entreprises qui avaient des plutôt dans le domaine de volaille, mais peu importe. La valeur de ces quotas-là, au départ, on ne pouvait pas s'imaginer que ça prendrait... parce que les chiffres dont on parle dans le lait, c'est rien à côté de ce que c'est dans le domaine des pondeuses et puis du poulet grillé. Hein, c'est absolument effarant de voir le prix du quota. Alors, cette financiarisation-là a amené, évidemment, l'échange entre un actif puis de l'argent pour faire d'autres choses. C'est comme...
Mais est-ce que c'est pas ça qui risque de fragiliser l'agriculture? Parce que si demain matin, pour X raisons, il faut sortir de la gestion de l'œuf, même si on met un plan en marche, il y a quelqu'un qui va devoir payer.
Ça ne fait pas juste risquer de la prendre.
Demain matin, soyons clairs, il n'y a plus de gestion de l'œuf au Québec. Là. On ferme l'agriculture au Québec en grande partie. C'est sûr qu'à long terme, dans 15-20 ans, oui, il va réapparaître quelque chose, mais il va réapparaître quelque chose sur des ruines. Là.
Si on ferme la gestion de l'offre...
As-tu le même pessimisme?
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est sûr que si on ferme ça demain matin et qu'il y a zéro transition, c'est non seulement l'agriculture qu'on ferme, mais c'est 32 milliards de valeurs qu'on vient d'éradiquer dans le système bancaire. Le pays n'a pas eu moyen de se payer ça. Bon, en partant de là, ça, c'est une chose. Comment est-ce qu'on procède à une transition? Et c'est ce que des fois je reproche aux Charlebois et aux autres de ce monde, c'est de dire, vous parlez d'enlever le quota, mais vous ne parlez jamais de comment vous verriez la transition. Parce que les producteurs, il faut que vous vendiez ça aux producteurs aussi. Là. À un moment donné, là, on est encore à l'époque où est-ce que les producteurs ont un mot à dire. Mais qu'on arrive dans la négociation au niveau international ou au niveau de l'Amérique du Nord, ça va être les politiciens qui vont avoir à gérer ça. Puis les politiciens, on sait comment est-ce qu'ils pensent. Ils vont protéger les secteurs qui sont les plus payants politiquement pour eux. Ouais. Et on espère que l'agriculture fasse partie de ça. D'un autre côté, comme moi, 50 % de mon endettement, parce que je suis une firme de première génération, c'est du quota. Et je paye 5 % d'intérêt dessus. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je trouve quelqu'un pour acheter mon lait, je suis capable de subir une perte de 50 % de la valeur du lait qui m'est payé, puis je ne change strictement rien au net de mon entreprise à la fin. Mais en même temps, il y a des producteurs qui commencent, qui sont plus serrés que ça. Et il y a des producteurs qui sont beaucoup plus proches de la retraite puis qui sont presque à l'heure de dette, qu'eux, c'est le fonds de pension, ça. Mm-hmm. Et il faut réussir à accorder tous ces champs d'intérêt-là ensemble. Et il est là le défi. Parce que pour l'instant, on a encore le moyen de proposer des moyens des transitions ou de maintenir les choses en place. Mais plus on tarde à se donner une vraie direction puis une vraie aire d'aller, moins on va avoir les cartes en main pour être capable de les jouer.
Mais tu parles justement des politiciens qui vont devoir prendre des décisions pour différents secteurs névralgiques, là, en fait, dans le futur. On espère que l'agriculture en fera partie, on n'en est pas sûr du tout. Et quand tu parles aussi de Sylvain Charlebois, qui est un chercheur, professeur, qui écrit souvent sur notre site aussi, qui est effectivement souvent critiqué au Québec pour ses positions que certains disent anti-gestion de l'œuf, que lui estime plutôt étant redéfinition, mettons, de la gestion de l'œuf. Mais au final, c'est peut-être la problématique des économistes comme lui, c'est peut-être la problématique des politiciens. Est-ce que les gens comprennent réellement la gestion de l'œuf? Est-ce que les gens ont réellement une compréhension de ce qu'est ce système? Mais est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'on ne veut pas parler de transformer la gestion de l'œuf? Parce que moi, j'ai lu plusieurs articles de l'Institut Jean Garon il y a quelques années où déjà l'Institut Jean Garon vous disiez que la gestion de l'œuf, il faut la conserver, mais que c'est la gestion de la gestion de l'œuf. Il fallait changer le système de gérer la gestion de l'œuf. Puis je pense que Charlebois, à quelques reprises, est allé dans ce sens-là aussi. Donc est-ce que c'est le fait que finalement les politiciens, ils sont tous vent debout pour sauver la gestion de l'œuf, mais quand il est question de faire une action pour changer quelque chose dans la gestion de l'œuf, il n'y a plus personne?
Bien, c'est... Comment je te dirais? C'est dur à expliquer. Même moi qui suis dans le domaine, là, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les ramifications puis toutes les portées. Bon, je pense qu'on est tous pas mal comme ça aussi. Puis moi, un exemple pour quelqu'un comme Charlebois, je pense qu'il faut être capable d'avoir un débat. Puis moi, ce que je reproche souvent, c'est qu'on n'est plus capable d'avoir un débat. Parce que quelqu'un qui pense contraire à nous, si on est capable de débattre avec puis de voir jusqu'où on peut aller, bien, au moins, on se trouve chacun des lumières qu'on n'avait pas pensé ouvrir avant. Et ça, je pense qu'au Québec, dans tous les domaines, ça manque. Pour le reste, après, une transformation, je pense que si on est en affaires puis qu'on ne se remet pas en question à chaque 5 ans, on passe à côté de quelque chose. Et je pense que la gestion de l'offre, au niveau national, mais aussi au niveau provincial, la gestion de l'agriculture même, devrait constamment être passé dans le tamis de la remise en question, savoir si on est efficient, voir si on est juste entre les producteurs, entre les types de production, entre les provinces. On n'a même pas les mêmes réglementations entre les provinces, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau de l'utilisation des médicaments, au niveau des sols. Et ça, si on pouvait commencer à régler nos problèmes à nous autres, à l'intérieur de notre pays, on serait probablement beaucoup mieux outillés pour faire face aux demandes des autres pays. Mais on n'est même pas capable de se régler entre nous. Fait que je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est regarder comment est-ce qu'au Canada, on peut se rendre plus efficient dans le temps qu'on a pour le faire, parce que je ne pense pas qu'on ait grand temps pour régler ça. Puis après ça, on verra la transition, puis où est-ce que les négociateurs gouvernementaux vont nous laisser. Mais il faut travailler à se préparer un plan B.
Michel, peut-être justement un peu en conclusion, puis Yann, tu me diras aussi tout à l'heure, parce que ça va concerner aussi ta chronique que tu as écrite dans le dernier numéro de La Vie agricole. Les deux chroniques qui sont sorties le même jour, en fait, Sylvain Charlebois dans La Presse et toi dans La Vie agricole. Sylvain Charlebois, il reparlait de la gestion de l'œuf, il mettait de l'avant le privilège des producteurs laitiers, c'est sûr. C'est ça qui dérange d'ailleurs, parce qu'il parle des privilèges des producteurs laitiers, mais il mettait surtout de l'avant le manque de transparence. Puis ça, c'est un point que l'Institut avait quand même soulevé. Donc, il y a quand même des points qui sont similaires, c'est ça que je voudrais comprendre. Puis Yann, dans une des chroniques, dans la chronique que tu as fait le même jour, là, toi tu mettais de l'avant la possibilité par le biais de la gestion de l'œuf de faire des produits de meilleure qualité, alors qu'on se contente souvent de faire un produit de qualité, mais pas forcément, en fait des produits même de productivité, tu dis dans ta chronique, de qualité mais de productivité, et pas forcément des produits de qualité qui se différencient. J'aimerais ça que Michel, tu réagisses à ça.
Ben, le mot qui me vient, c'est plutôt rigidité. La rigidité dans la gestion de ce système-là a fait en sorte qu'il a été difficile pour plusieurs qui avaient des initiatives intéressantes d'y trouver leur compte. Ça a été le cas au départ du bio, d'ailleurs. Il fallait trouver des façons d'avoir un système parallèle pour la cueillette du lait, etc., des normes, il fallait qu'elles s'appliquent. C'était difficile. C'est difficile également pour tous ceux qui ont voulu avoir une spécificité qui soit régionale ou qui a un caractère, par exemple, de race, etc. Cette rigidité-là a fait en sorte que tous ceux qui se sont essayés, on a parlé à Jean Morin, à titre d'exemple, de la fromagerie du presbytère, là, il devait payer le transport alors que c'était son lait qui traversait le bois. Alors ça, c'était une bataille. Quand je dis rigidité, c'est ça qui a empêché souvent d'avoir des produits beaucoup plus spécifiques pour lesquels les gens disent, moi, c'est pas du lait comme ça que je veux. Je vais l'avoir, par exemple, du lait d'Hershire. Ça goûte pas la même chose. Bien, tu vois, en Europe, il y en a des laits qui sont spécifiques de race. Il y en a d'autres qui ont un caractère régional. Bien, les logrus cherchent ça, avoir cette spécificité-là. Alors, mais je vous dis, dans un système où on veut avoir tout dans un même bassin, puis avec un transport unique, c'est extrêmement difficile.
Donc, Yann, en conclusion, quand Charlebois parle de manque de transparence, est-ce qu'il a raison quand même sur le manque de transparence du système?
Bon, Charlebois, il a pas de fumée sans feu, oui, mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Là. La seule chose, puis je vais rejoindre Frédéric, là, moi, je pense que oui, effectivement, il faut penser à un plan B, il faut penser à une période de transition, et moi, je pense que la gestion de l'offre donne les moyens à l'ensemble des acteurs, puis quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est pour que les producteurs, c'est les transformateurs aussi, et éventuellement les consommateurs, à mettre en place la transition. Et je pense que d'améliorer la qualité de notre lait, je ne dis pas qu'on fait un lait de mauvaise qualité, mais à matin, on a les moyens de faire le meilleur. On a les moyens technologiques, on a des gens, on peut faire au Canada le meilleur lait au monde. Puis c'est ça qu'il faut faire, il faut être le meilleur. Et c'est ça qui va nous protéger justement d'une fin de la gestion de l'offre. Les gens n'iront pas acheter du lait américain si on a le meilleur lait au monde. Si on a un lait exactement comme le lait américain, et ça va coûter très cher. Parce que sinon, c'est quoi les autres éléments de transition qu'on va avoir? Des subventions du gouvernement? Ça va coûter combien protéger l'ensemble des producteurs comme ils sont là présentement? Un demi-milliard? Un milliard par année? Ils vont le trouver où, l'argent, là? Malgré que, faut croire depuis que la COVID, c'est facile à imprimer de l'argent, là, mais est-ce qu'on voulait en imprimer pour des producteurs? Ça, je suis pas trop sûr, là.
Messieurs, merci beaucoup.